Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Connaître Dieu, et en sous-titre, l'intuition de l'esprit. Donc on va prendre un passage d'introduction dans Éphésiens 1, au verset 15 à 23.
C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus et de votre charité pour tous, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Donc, dans ce passage, donc, c'est l'apôtre qui prie pour les Éphésiens. Donc, il dit, « Moi aussi, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Donc, c'est bien, ça commence bien, c'est un compliment. Et puis, il va prier quelque chose d'intéressant au verset 16. Donc, déjà, je rends grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc là, il nous est parlé de sagesse, de révélation et de connaissance. Pourtant, les Éphésiens, donc c'était des chrétiens qui allaient normalement à l'église, qui avaient la foi. Et puis, Paul va prier pour qu'ils aient de la sagesse et de la connaissance. On peut penser qu'ils avaient déjà de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de l'enseignement de Jésus. Mais là, Paul veut les introduire dans une connaissance plus profonde, qui est comme une connaissance intérieure et une connaissance, en fait, intime de Dieu, qui ne se limite pas à connaître par l'intelligence, mais qui est de connaître vraiment Dieu de façon spirituelle pour pouvoir ensuite, donc, avoir, comprendre quel est l'héritage des saints, donc ce que Dieu a fait pour eux, saisir le mystère, en fait, de l'évangile, hein, ce que Christ a fait, Christ qui est élevé au-dessus de tous, et puis pour pouvoir donc en fait servir Dieu et marcher dans cette autorité de Dieu, pour qu'il puisse marcher dans la plénitude de celui qui remplit tout en tous, dit le verset 23. Donc on peut connaître beaucoup de choses de la Bible, on a des livres, on a des cassettes, on a des MP3 même, mais il ne suffit pas de les connaître et de les emmagasiner, on a besoin de passer de la connaissance par l'intelligence à la connaissance intérieure, une connaissance spirituelle. Et dans Romains 10, 14, il nous est parlé de salut. Il nous est dit comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Donc pour que les gens puissent avoir une connaissance déjà de Jésus, qui puisse produire la foi, il y a besoin que des gens puissent prêcher, donc annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc la première chose c'est ça, c'est on a entendu l'évangile, on a compris, on a cru. Et puis maintenant, on a besoin d'aller plus loin que la seule connaissance pour le salut, pour entrer vraiment dans ce qui est le royaume de Dieu, dans les principes du royaume de Dieu, et pour vivre pleinement notre relation avec Dieu, qui va beaucoup plus loin que de seulement être sauvé. Alors, une petite révision de la constitution de l'homme, comment nous sommes faits. Donc, nous sommes un corps, une âme et un esprit. D'accord? C'est pas seulement une invention de la théologie, parce que ça faisait bien. Mais vous pouvez trouver, on va pas lire, mais dans 1 Thessaloniciens 5, 23 ou dans Hébreux 4, 12, ce sont des versets qui montrent clairement que nous sommes un corps, une âme, un esprit. Donc c'est biblique. Donc notre corps, c'est notre enveloppe, si on veut, qui communique avec l'extérieur, c'est ce qu'on voit de nous. Notre âme, c'est notre personnalité, nos émotions, notre volonté, notre intelligence aussi. Et puis notre esprit, c'est cette partie spirituelle avec laquelle en fait Dieu se révèle à nous. C'est un lieu de communion, c'est là où il y a notre conscience, et c'est là que nous pouvons être conscients justement des réalités spirituelles et en fait de la gloire de Dieu. C'est là que nous pouvons être amenés à connaître Dieu. Et donc Dieu nous a donné la vie, il nous a créés, il a créé Adam, il lui a insufflé le souffle de vie, pardon. Et en fait ce qui est vivant dans Adam, et Adam est réellement l'esprit qui est en lui. Nous sommes un esprit qui habite dans un corps. Nous sommes un esprit. On a un corps avec dans lequel on vit, avec lequel on travaille, et puis notre âme qui parfois nous cause plus de problèmes qu'autre chose, mais qui est là quand même. Et en grec, il y a trois mots pour la vie. Il y a bios, qu'on peut retrouver dans biologie, etc. Ça, c'est la vie naturelle, la vie physique. Il y a psyché, qui est la vie de l'âme, donc psychologie, etc. Et puis il y a zoé. Et zoé, c'est ce mot-là qui est rendu dans la parole de Dieu par vie éternelle. Et ça, c'est une vie qui n'est pas une vie créée. C'est pas une vie qui est créée donc sur terre ou qu'on peut avoir par quelque manière que ce soit, mais c'est en fait la vie de Dieu ou le genre de vie de Dieu qui nous est communiqué. Donc quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons la vie éternelle. Ça veut dire que nous vivrons pour toujours, d'accord, mais c'est pas notre corps, c'est notre esprit. Parce que notre esprit reçoit en fait le genre de vie de Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas des circonstances. C'est ça Zoé. Et c'est ce genre de vie que nous avons. Donc Dieu qui nous a créés désire être en relation avec nous. C'est pour ça que Dieu donc nous communique des choses à notre esprit. Et quand Adam avait péché, il nous est dit qu'il a été séparé de Dieu. Pas mort physiquement, mais il a été séparé de Dieu. Et quand on regarde un peu la suite de la Genèse, on se rend compte qu'en Genèse 6, il y avait tellement de péchés sur la terre que Dieu a voulu détruire tout le monde. Donc on peut comprendre que le fait d'être séparé de Dieu, de ne pas avoir cette communion avec Dieu, amène l'homme en fait à vivre par son âme ou par son corps et l'amène au péché. Parce qu'il n'a pas la direction qui peut être agréable à Dieu. Donc Dieu a détruit tous les hommes à l'exception d'un homme, Noé, sa famille et puis tous les passagers de l'arche. Vous pouvez lire ça dans Genèse 6. Et ça c'est déjà une image pour le salut qui nous est donné pour nous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de gens vivent sans Dieu. Leur esprit n'est pas sensible aux réalités spirituelles, n'est pas sensible à la réalité de Dieu. Pourtant, Dieu désire se révéler. Et donc, il a envoyé Jésus dans le monde pour prendre nos péchés, pour les amener à la croix, mourir pour nous et ressusciter pour nous transmettre ce genre de vie de Dieu. Parce que Jésus a fait cela, nous n'avons plus besoin, nous, d'être morts et d'être séparés de Dieu. Et Dieu a un but et un plan. Donc, c'est pas parce que les hommes ont été dans le péché que Dieu a été perdu. C'est dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je vais en faire de cet homme que j'ai créé? Parce que si Dieu avait voulu, il aurait pu annuler toute la création et puis l'histoire de l'humanité s'arrêtait là. Mais Dieu avait une autre idée, un autre plan, et il se donne toujours les moyens de l'accomplir. Donc Dieu cherche à être en communion avec les hommes. Et dans la Bible, on peut voir plusieurs alliances que Dieu avait conclues avec plusieurs hommes. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans la Bible, c'est que quand vous lisez l'Ancien Testament, même si ce sont des histoires, parfois il y a tellement de détails qui sont donnés que moi je ne peux pas freiner ma curiosité et me dire que s'il y a tellement de détails, c'est qu'il y a certainement quelque chose à apprendre là-dedans. Et une de ces choses-là, c'est donc l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse et qu'on trouve notamment manifestée dans le tabernacle, dans le système des sacrifices, où là on peut voir des choses que Dieu veut nous enseigner. Et d'ailleurs j'ai apprécié le texte qui a été donné à la Sainte Cène parce qu'il introduisait donc ce que je vais dire là par rapport au tabernacle. Dieu a fait une alliance avec Moïse, il a donné des lois précises, des instructions précises pour construire le tabernacle, qui allait être en fait l'habitation de Dieu au milieu de ce peuple. Et donc vous pouvez lire ça dans Exode, à partir du verset 25 et les suivants, qu'on ne va pas le lire là, parce que ce n'est pas le cœur de mon sujet, mais j'aimerais quand même partager quelque chose avec vous, que j'ai remarqué. Donc le tabernacle, quand vous étiez devant, vous pouviez voir comme une grande clôture, le parvis du tabernacle, qui était fait de tissu blanc, et dans cette clôture, il y avait un endroit où il y avait une porte. Et cette porte, elle était tissée dans des tissus bleus, pourpres et cramoisis. D'accord? Ensuite, vous passiez cette porte, vous entriez, et là, vous trouviez près de vous l'autel des offrandes consumées, et ensuite la cuve d'airain, où les sacrificateurs donc se purifiaient. Et après, si vous continuiez, donc on se trouvait devant le tabernacle à proprement parler, le bâtiment. Et là, encore une fois, il y avait une porte qui était faite dans le même tissu, bleu, pourpre et cramoisi. Et à l'intérieur, donc, c'était divisé en deux parties. Il y avait le lieu saint, où il y avait donc un chandelier, il y avait une table avec des pains, et il y avait un autel des parfums ou de l'encens. Ce tabernacle, ce sanctuaire, était fait avec des planches de bois qui étaient recouvertes d'or à l'intérieur. Et tous les ustensiles à l'intérieur étaient en or. Et le chandelier était même sculpté dans une pièce d'or. Donc ça devait certainement pas mal briller à l'intérieur. Hein. Et après, il y avait un voile de séparation, et de l'autre côté, il y avait là l'arche de l'alliance de Dieu. Et en fait, c'est là que Dieu demeurait, à proprement parler. Donc ça, c'était le système du tabernacle. Maintenant, si on regarde un peu dans le Nouveau Testament, Jésus dira « Je suis la porte ». En passant par Jésus, on peut donc rentrer dans le royaume de Dieu, comme dans la cour du tabernacle. On rentre là dans le domaine qui est à Dieu, dans la propriété privée de Dieu. En passant par Jésus, on est déjà sauvé. Et donc, on peut être là. Alors, il y a un autel, des offrandes consumées. Ah, là, il va falloir qu'on dépose notre vie. Il y a certaines choses qu'on va laisser, que Dieu va agréer comme une offrande, comme une odeur agréable. Nous lui offrons notre vie. Et puis, il y a cette cuve d'airain où on peut se purifier. En étant passé par Jésus, cette porte, en fait, on est au bénéfice de l'œuvre de Jésus pour pouvoir offrir nos vies et être purifiés. Donc là, c'est déjà bien. On est sauvé, on est dans le royaume de Dieu, c'est super. Mais on peut faire mieux. On peut aller jusque dans le lieu saint. Déjà, on passe par cette porte, Jésus. À cause de l'œuvre de Jésus, on a un accès dans le lieu saint, dans la présence de Dieu. Et ce sanctuaire, ça peut être une image aussi pour l'Église. Cette table des pains, on peut prendre la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, là, dans un endroit où Dieu habite. Il y a cet autel avec les parfums. Ça peut être notre prière, notre louange, notre service qui monte comme un parfum devant Dieu. Et puis le chandelier qui apporte la lumière de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et là, on est déjà bien. C'est bien, c'est agréable et c'est doré, donc ça brille. Et en plus, on lit dans la parole de Dieu que quand Jésus est mort sur la croix, le voile a été déchiré dans le temple. Donc maintenant, il n'y a plus cette séparation. Donc quand nous entrons dans le sanctuaire, en fait, nous entrons dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence même de Dieu. Et c'est ce tissu-là qui a été utilisé donc pour les portes, de fil bleu, de fil pourpre et de fil cramoisi, en fait, montrait déjà l'œuvre de Jésus. Les Israélites, sans le savoir, étaient en train de matérialiser ce que Jésus allait accomplir. Jésus venant dans le monde, prendre nos péchés sur lui et aller à la croix. À la croix, il est crucifié, il verse son sang pour nous, tout comme les sacrificateurs devaient verser le sang, donc du sacrifice, dans le lieu très saint pour l'expiation des péchés. Jésus verse son sang. Et puis Jésus était comme un homme, mais il était aussi comme Dieu. Donc sans le savoir, les Israélites passaient la porte. Ils montraient que voilà, pour rentrer dans le royaume de Dieu, on passe par Jésus. Et je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être êtes-vous encore devant la porte à observer, mais vous ne pouvez pas voir parce que le parvis est assez élevé. Dieu, quand il nous sauve, nous met dans son royaume et donc nous sommes séparés d'avec le monde. Peut-être que vous regardez, mais vous ne savez pas trop. Vous voyez, c'est bizarre, il y a une porte là, on la voit bien parce que c'est tout en couleur alors que tout le mur est blanc. Si vous êtes encore devant à regarder, aujourd'hui c'est le moment de passer par cette porte, passer par Jésus pour être sauvé. Maintenant, peut-être que vous êtes sauvé, vous êtes déjà dans la cour, vous êtes dans le royaume de Dieu, et puis vous vous réjouissez déjà, vous passez votre temps, vous offrez votre vie sur l'autel des offrandes consumées, vous vous purifiez avec l'eau de la cuve, mais aujourd'hui, c'est le moment aussi d'aller plus loin, d'avancer jusque dans le sanctuaire. Et là, pour entrer dans le sanctuaire, on passe par la porte, on passe par Jésus. Jésus nous a ouvert l'accès à la présence même de Dieu. Alléluia! Et si vous êtes déjà dans le sanctuaire, gloire à Dieu, continuons, soyons nourris de la parole de Dieu, éclairés par le Saint-Esprit, et offrons nos vies sans cesse comme un doux parfum devant Dieu. Dieu nous appelle non seulement à venir de temps en temps, mais à demeurer dans sa présence, à habiter dans sa présence. Ce sanctuaire, c'est pas un lieu physique, d'accord? Même s'il y a des endroits sur la terre, donc des églises, ou comme cet endroit, où on se rencontre et on vient pour adorer Dieu, c'est un endroit où on se met à part pour lui, mais en réalité ce sanctuaire est un lieu spirituel. Et notre esprit peut, c'est possible, continuellement être dans ce sanctuaire, continuellement être dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas supposés être séparés de Dieu ou aller de temps en temps devant Dieu. Et quand nous sommes dans cette communion, nous sommes imprégnés des réalités glorieuses, des réalités de ce qui se trouve dans le sanctuaire de Dieu, de ce qui se passe devant Dieu, dans la présence de Dieu. Et donc ces réalités-là qui sont dans notre esprit vont se refléter sur notre âme, sur notre corps et par la main donc se refléter sur le monde autour de nous. Rappelez-vous, tout était en or et il y avait le chandelier, il y avait de la lumière, donc ça devait vraiment briller et refléter. Nous aussi, nous pouvons refléter la présence de Dieu. Si notre esprit est placé et positionné en Dieu, Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, et c'est depuis là que nous agissons. Et si nous regardons de ce point de vue, nous voyons les choses très différemment, parce que tout devient possible. On voit que dans l'Ancien Testament, il y avait un certain système, et pas n'importe qui pouvait aller jusque dans le lieu très saint. C'est seulement le souverain sacrificateur, et seulement à certaines occasions, et seulement en s'étant purifié et en étant vêtu d'une certaine façon, qu'il pouvait entrer là-bas. Mais nous, aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous avons accès à la présence de Dieu à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'on y entre n'importe comment, mais l'accès nous est ouvert. Et les prophètes aussi dans l'Ancien Testament étaient en fait ceux à qui Dieu parlait, et eux, ils communiquaient au peuple. Et quand vous vouliez savoir quelque chose dans l'Ancien Testament, vous alliez voir le prophète, qu'on appelait aussi le voyant, qui n'avait pas une connotation péjorative, comme aujourd'hui dans nos milieux chrétiens, quand on dit le voyant, on pense au voyant du monde qui... Voilà, à l'occultisme. Mais en fait, donc, dans l'Ancien Testament, les gens venaient voir le prophète pour lui demander quelque chose. Parce qu'ils n'avaient pas cette communion avec Dieu que Jésus a rétablie. Dans le Nouveau Testament, les prophètes ne vous disent pas ce que vous devez faire, mais ils confirment ce que l'Esprit de Dieu a déjà mis dans votre esprit. Et il y a des gens qui courent après les prophètes, ils voient « Ah, réunion spéciale, réunion de réveil, avec le prophète un tel, là je vais y aller ». Et là, on peut se lever tôt, on peut faire une nuit blanche, on peut faire beaucoup de choses pour y aller. Et puis voilà que la réunion se déroule, et puis le bon prophète appelle un tel, et leur donne des paroles super. Et tu te dis, là, c'est mon jour, je vais avoir une super parole aujourd'hui. Seigneur, parle-moi. Puis tu vois l'heure qui tourne, tu te dis, mais ils vont finir à quelle heure aujourd'hui? Ça continue. Et puis finalement, il va dire, bon, on va finir la réunion ici. Et toi, tu n'as pas eu ta parole, et tu rentres, tu es déçu, et tu pleures. Pourquoi tu ne parles pas à Dieu? Pourquoi? Parce que pendant que tu cherches ta parole, là-bas chez le prophète, Dieu l'a mis à l'intérieur de toi. Je ne suis pas en train d'annuler le ministère des prophètes, au contraire. Mais Dieu fonctionne avec nous selon son alliance. Dans l'ancienne alliance, il parlait aux prophètes et les prophètes le disaient au peuple. Le peuple n'avait pas la relation directe à Dieu. Dans la nouvelle alliance, Jésus a pris nos péchés, est allé à la croix et mort pour nous. Il est ressuscité et il nous a donné la vie éternelle, le genre de vie de Dieu. La Bible dit même que nous avons en nous la nature de Dieu. Il nous a rendus participants à sa nature divine. Donc en tant que tel, nous sommes capables, rendus capables par l'œuvre de Christ, de recevoir sa pensée. Dans l'Ancien Testament encore, les prophètes ou les rois et les sacrificateurs étaient ceux qui donc avaient l'onction. Ils étaient revêtus de l'Esprit. Mais nulle part on ne peut lire, en tout cas je n'ai jamais vu ça, qu'ils aient été remplis de l'Esprit. Ou que le Saint-Esprit ait vécu en eux. Ils étaient juste revêtus de l'Esprit. Ils recevaient une onction pour faire la tâche que Dieu leur avait confiée. Mais nous, Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour demeurer en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc nous avons en fait Dieu en nous. Et nous pouvons avoir aussi, bien sûr, une onction spéciale pour un service spécial que Dieu nous demande. Mais nous avons ça de plus et de différent que l'Esprit de Dieu vit en nous. Et donc il se révèle à nous. Le désir de Dieu, c'est de se révéler aux hommes. Quand nous avons été régénérés, notre esprit a donc retrouvé sa communion avec Dieu. Et Dieu veut nous parler. Et il le fait en plus grande partie dans notre esprit. Et si nous avons besoin de beaucoup de visions, de beaucoup de paroles, de beaucoup de choses sensibles, c'est que notre esprit n'est pas toujours disposé. Ou alors que nous ne saisissons pas ce qui se passe dans notre esprit. Parce que le moyen par excellence de Dieu de nous parler dans notre alliance de nos jours, c'est des moyens intérieurs. Dieu nous parle à l'intérieur de nous. Et tout ce qui est extérieur peut venir confirmer ce que Dieu nous a déjà donné. Donc sans cette communion surnaturelle, nous ne pouvons pas marcher dans une vie spirituelle, une vie chrétienne qui est productive et qui est abondante. Parce que nous dépendons toujours de ce que les autres nous disent. Et donc nous ne devenons plus les serviteurs de Dieu ou les ambassadeurs de Dieu dont nous avons les instructions dans nos cœurs. Mais en fait, nous devenons comme les pantins ou comme les serviteurs de quelqu'un qui nous dit « fais ceci, fais cela ». Et si vous essayez de demander à plusieurs personnes, tout prophète qu'il soit, un conseil pour une situation précise, il se peut que plusieurs vous disent des choses différentes. Mais un prophète authentique aura parfois aussi la simplicité, la sincérité de vous dire, c'est pas à moi de te dire ça, cherche Dieu. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, d'accord? C'est important, c'est bien d'avoir les prophètes, c'est bien tout ça, mais on a besoin de chercher en Dieu. Et donc Dieu nous donne un témoignage intérieur, en fait, le témoignage intérieur. Alors lisons ensemble Hébreux 8, au verset 10 à 12.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Voici l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Donc je mets mes lois dans leur esprit, je les écris dans leur cœur. C'est quelque chose d'intérieur, d'accord ? Notre esprit, c'est à l'intérieur de nous. Notre cœur, c'est à l'intérieur de nous. Et là, il est question d'une connaissance de Dieu qui n'est donc pas une connaissance apprise. Ce n'est pas une connaissance qui vient de ce qu'on a étudié, mais c'est une connaissance que Dieu met en nous. Je les mets dans leur esprit, je les écris dans leur cœur. Donc il y a des choses que Dieu communique directement à l'intérieur de nous. Aussi par rapport à la connaissance de sa parole ou à la connaissance de réalités spirituelles. Dieu les inscrit dans nos cœurs. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'être enseigné. Le verset là, verset 11, donc personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront ». Ça peut paraître étrange parce que ce que je suis en train de faire n'aurait aucun sens sinon. D'accord ? On a toujours besoin d'entendre des enseignements de la parole de Dieu. Donc moi, je peux t'enseigner, je peux te communiquer des choses de la parole de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui se fait connaître à toi. C'est toi-même qui as la connaissance intérieure de Dieu. Quand il est dit « Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés », c'est que Dieu se révèle à vous lorsque vous recevez donc le salut. Vous comprenez l'offre que Jésus a faite, vous recevez le Saint-Esprit, et là vous recevez une connaissance de Dieu à l'intérieur de vous, un témoignage intérieur. Quand nous sommes chrétiens nés de nouveau, nous avons donc le Saint-Esprit en nous. Il nous conduit, il nous éclaire. Et Jésus a dit plusieurs paroles au sujet du Saint-Esprit, notamment que c'est l'Esprit qui vivifie, que les paroles qu'il nous a données sont Esprit et vie, dans Jean 6, et que l'Esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité. Et dans 1 Corinthiens 2:10, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et Jésus dira aussi que l'Esprit prend de ce qui est au Père et il nous le donne. Donc l'Esprit de Dieu qui nous a été donné avec une connaissance de Dieu, des réalités de Dieu. Et nous avons besoin qu'il nous révèle des choses que nous ne pouvons pas saisir autrement. Donc l'Esprit de Dieu nous donne une connaissance de Dieu, et quand vous entendez l'enseignement, ça réveille, ça active ce que l'Esprit de Dieu a déjà mis à l'intérieur de vous. Jésus a accompli une œuvre complète pour nous, et dans cette œuvre, il inclut non seulement un salut, une libération et un changement de conditions, mais il nous a déjà donné la connaissance du Père. Maintenant, notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Et au travers des enseignements, des cassettes, etc., des livres qui passent par notre intelligence, il y a des choses que nous assimilons et que nous comprenons avec notre intelligence, mais pour lesquelles nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit, de sorte que ça devienne une réalité et que ça devienne actif dans notre vie. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre. Donc il y a plusieurs niveaux de connaissance. Il y a la connaissance intellectuelle, je comprends ce que j'ai lu ou je comprends ce qu'on m'a enseigné. Et puis il y a une connaissance plus spirituelle, où là c'est non seulement je comprends par mon intelligence, mais l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit de cette réalité. Donc ça fonctionne en fait dans les deux sens. Les choses que vous entendez, que vous lisez, etc., l'Esprit va les confirmer et les rendre réelles à votre esprit, à votre corps spirituel, pour que ça devienne des réalités sur lesquelles vous pouvez travailler. Et il y a des choses que l'Esprit de Dieu met en vous. Lorsque vous lisez la parole, vous entendez des enseignements, ça va confirmer et ça va vous donner une conviction pour ça. En tout cas, ce que Dieu vous communique et ce que la Bible vous communique sont toujours en accord. Il n'y a rien que Dieu vous dise qui ne puisse pas coller avec la Bible. Donc si vous n'êtes pas sûr d'une intuition, de quelque chose que vous avez dans votre cœur, prenez la parole de Dieu. Et si vous trouvez une parole sur laquelle vous appuyez, ben, je ne peux que vous encourager, allez-y. Même si personne ne l'a jamais vu comme ça ou ne l'a jamais compris comme ça, ou même si quelqu'un peut vous conseiller. Parfois, vous avez dans votre cœur comme la certitude, il faut que je fasse ça. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais c'est comme une intuition de Dieu. Et il y a des choses dans nos vies qui nous viennent parce que soit les situations nous les inspirent, ou soit quelqu'un nous dit quelque chose, donc soit ça nous fait rire, soit ça nous fait réfléchir, etc. Mais il y a des choses que Dieu fait qui sont comme des intuitions. Parfois, on peut rire, on ne sait pas pourquoi. Ou parfois, on se réveille le matin et on est dans la joie, on a envie de louer Dieu. On ne sait pas pourquoi. On n'a encore rien eu aujourd'hui, donc on ne sait pas pourquoi. Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui est vivant et qui nous éveille à ces réalités. De la même façon, Dieu peut nous donner des choses. Un jour, on va se dire, tiens, Tu as une idée en tête et tu es sûr. Tu te dis, je ne sais pas d'où ça vient, mais je le sais. Et la parole de Dieu va pouvoir le confirmer. Même si parfois des gens vont dire, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Ils ne peuvent pas savoir pour vous. C'est bon d'avoir le conseil des autres. Mais ce qui doit être le plus important, c'est le conseil de Dieu. C'est ce que Dieu vous communique. Parce que si vous fonctionnez sur le conseil des gens, vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. Donc nous avons un témoignage intérieur du fait que nous soyons sauvés. Dans 1 Jean 5, 10, il nous est dit que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et Romains 8, 16 dit aussi, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça nous montre comment nous pouvons nous attendre à être guidés par le Saint-Esprit. C'est un témoignage intérieur. Il n'est pas dit, l'Esprit vous donne une vision que vous êtes enfant de Dieu. Il n'est pas dit, l'Esprit vous envoie un prophète pour dire que vous êtes enfant de Dieu. Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et de la même façon, il y a un témoignage intérieur en nous, pour le fait que nous soyons enfants de Dieu, mais pour d'autres choses. Dieu rend témoignage en nous. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons une parole de guérison, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes bénéficiaires de cette parole. Et ça va encore plus loin, l'Esprit nous conduit dans nos fonctions d'ambassadeur dans ce monde, par l'intuition de l'Esprit. Donc une intuition, c'est quelque chose qui n'est pas produit par quelque chose d'extérieur, qui vient de notre être intérieur, en fait. On parle d'intuition féminine, on ne sait pas trop d'où ça vient, et on ne sait pas trop ce que ça vaut, mais ça ne vient pas donc de ce qui est extérieur. C'est quelque chose qu'on ressent et on se dit, voilà, ça va être comme ça ou ça va être comme ça. De la même façon, il y a une intuition de l'Esprit dans nos vies. Dieu veut se révéler à nous et nous apprenons des choses par intuition. Donc Hébreux 8.11 disait ça, on n'a plus besoin d'être enseigné parce qu'on connaîtra Dieu qui a inscrit ses lois dans nos cœurs. On peut lire un passage encore dans 1 Jean 2, verset 27, où il nous est parlé aussi de cela, de ce témoignage, de cette intuition de l'Esprit dans nos vies. 1 Jean 2, 27.
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Donc ce verset nous dit encore quelque chose, l'onction nous enseigne. Elle dit aussi, vous n'avez pas besoin d'être enseigné, mais ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être enseigné. Non pas qu'il ne faille pas écouter la parole de Dieu, mais nous n'avons pas besoin d'être enseignés sur ce que Dieu met à l'intérieur de nous. L'onction nous enseigne. Il y a un enseignement de l'onction de Dieu. Donc l'onction ne sert pas seulement à se sentir bien fort ou à faire des miracles ou des choses comme ça, mais l'onction nous enseigne. L'onction nous révèle Dieu. Et l'onction nous conduit dans ce que Dieu veut que nous puissions faire. Il y a une intuition de Dieu, donc c'est à la lumière de la connaissance que nous avons reçue de la parole de Dieu que nous pouvons aussi analyser et être sûrs des intuitions que nous avons. Dans une situation, on peut être dans une situation quelconque, et là l'Esprit de Dieu peut nous montrer de faire quelque chose. Parfois on dira « Dieu m'a mis à cœur ». En fait c'est une intuition qu'on a, d'accord ? L'intuition de faire quelque chose, et on peut l'analyser au vu de ce qu'on connaît, donc de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous a appris. Mais il ne s'agit pas non plus, donc, quand on est dans une situation, l'Esprit de Dieu te montre de faire quelque chose, et toi tu vas dire, non, il faut d'abord que j'aille vérifier dans la Bible, que j'aille prier, que j'aille jeûner pour voir si ça correspond. Dieu veut nous amener au point où lorsque donc, nous avons une intuition qui nous vient dans notre esprit, nous sachions reconnaître, ça c'est l'Esprit de Dieu qui me le dit, et que nous le fassions parce que nous savons déjà que nous avons une parole sur laquelle nous appuyer. Nous avons appris en fait à travailler avec cette intuition de l'Esprit en nous. Luc commence son évangile en disant quoi ? Il m'a semblé bon d'écrire cet évangile. C'est pas mal quand même, hein ? Et c'est dans la Bible. Il lui a semblé bon. Donc, j'ai eu l'intuition que ça serait bien que j'écrive cet évangile. Il est honnête, il le dit. Il n'a pas dit, Dieu m'a dit d'écrire cet évangile. Non, il m'a semblé bon d'écrire cet évangile. Et il l'a fait, et il nous a donné des paroles qui sont bonnes pour nous. De la même façon, il y a des choses qui peuvent te sembler bonnes. Il peut y avoir des intuitions. Ça serait bien de faire ça. Et en fait, c'est des choses que Dieu met dans ton cœur. Et quand Dieu nous donne ce genre d'intuition, il va à chaque fois nous montrer comment. Dieu nous montre le but et Dieu nous montre le plan. Comment y arriver. D'accord ? La destination et l'itinéraire. Et personne n'oserait dire que ce n'était pas une idée de Dieu, donc d'écrire cet évangile. Il peut y avoir des intuitions qui nous poussent, et il nous faut chercher parfois dans la parole de Dieu une parole. Parce qu'on peut avoir quelque chose à se dire, mais attends, ça ne me dit rien. Ou alors on peut avoir l'intuition d'étudier un sujet, l'intuition de lire quelque chose dans la Bible. Peut-être pendant la louange, je te dis, je sais pas, tu reçois, tu as un passage en tête. C'est aussi une intuition, l'Esprit de Dieu, mais ça ne vient pas de l'extérieur. Personne t'a dit, tiens, va jeter un œil au psaume 19. Peut-être que ça sera bon pour quelqu'un à le noter. Personne ne te l'a dit, mais l'Esprit de Dieu te donne l'intuition et quand tu vas le lire, ça va justement contenir la parole dont tu as besoin aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que je suis en train de vouloir introduire dans notre vie, mais quelque chose à quoi on a besoin d'être sensibilisé. Osée, le prophète Osée dit « faute de connaissance, le peuple périt ». Et parfois, il y a des choses qu'on expérimente ou qu'on connaît un peu, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est et on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Donc on a du mal à y grandir. Vous voyez, être attentif. Et donc je voudrais qu'on soit sensible à ça, à ce que Dieu fait et à la communication de Dieu dans notre vie. Dieu a des techniques de communication qui dépassent encore de loin nos nouvelles technologies, qui ne sont pas encore à la pointe de Dieu. Hein. Dieu peut donner une intuition à quelqu'un au même moment, à des endroits différents, de faire quelque chose qui va finalement participer au même but, et ça au même instant. Parce que Dieu n'est pas dans le temps, lui, il ne s'inquiète pas des secondes et des minutes. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Pour lui, c'est bon. 1 Corinthiens 2, 11 nous parle aussi de cette intuition.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu.
Donc l'esprit de Dieu, qui vit en nous, connaît donc les choses de Dieu. Donc les choses de Dieu sont en nous. Nous avons une intuition dans notre esprit. C'est quelque chose en nous-mêmes qui peut nous prévenir ou nous indiquer que nous sommes soit dans la bonne direction, soit dans la mauvaise direction, ou soit nous avertir d'événements à venir ou de choses qui se passent pour que nous puissions intervenir dessus. Rappelez-vous que Dieu nous a créés pour pouvoir changer les circonstances, d'accord ? Et pas être soumis aux circonstances. Donc Dieu nous donne des intuitions pour que nous puissions agir, parfois même pour empêcher quelque chose d'arriver avant que ça n'arrive. Il vaut mieux parfois intervenir sur les choses avant qu'elles ne causent des dégâts, plutôt que toujours s'amuser à recoller les morceaux. D'accord ? Et Dieu voudrait pouvoir fonctionner comme ça avec nous. Donc on a besoin d'être sensible à ces intuitions de Dieu. Nous n'avons pas seulement l'Esprit sur nous, mais en nous. Et la Bible nous dit les fils de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit que l'Esprit de vérité nous conduira dans la vérité. Donc si c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, on n'a pas besoin de s'inquiéter de la vérité ou pas, parce que la vérité a habité pleinement en Jésus, et la vérité nous rend libres. Cette vérité, elle est dans la parole de Dieu, et elle est inscrite en nous par le Saint-Esprit. Donc Dieu nous rend participants à sa nature, ce qui veut dire que quand nous agissons, il ne devrait même pas y avoir de différence entre ce que nous faisons et ce que Dieu aurait fait dans la situation où nous sommes. Ça peut déranger la conception de certaines personnes, mais non. Quand on pose un acte, ça peut être exactement ce que Dieu aurait fait. D'accord ? Il nous dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes ceux par qui Dieu agit dans ce monde. Donc quand je suis dans une situation, de plus en plus, ce que je fais devrait correspondre exactement à ce que Dieu aurait fait. Et même pas à ce que Dieu aurait fait, à ce que Dieu fait, à ce que Dieu est en train de faire. Jésus nous a donné l'exemple. Et dans Jean 5, il nous dit comment il faisait. C'est intéressant de voir comment Jésus fonctionnait entre lui et le Père et comment il exerçait son ministère. C'est très intéressant. Jean 5, au verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est le Fils de Dieu quand même. Mais il ne pouvait rien faire de lui-même. Alors d'un côté, ça peut nous apparaître comme une restriction. Oui, je ne peux pas faire de moi-même, je ne peux pas faire ce que je veux. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Parce que si je le fais pas de moi-même, c'est que je le fais en bénéficiant de la puissance de Dieu. En fait, Dieu me dit de le faire, c'est pas de moi-même que je le fais, donc lui doit assurer derrière. D'accord ? Et il le fera. Donc Jésus ne faisait rien de lui-même, il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et une des illustrations pour ça, ça peut être par exemple, entre autres, Jésus, souvent, quand il faisait un miracle, ensuite priait, remerciait le Père, etc. Et il disait... Je ne le dis pas pour moi parce que je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi est-ce que Dieu l'exauce toujours ? Parce que Jésus fait ce que Dieu fait, tout simplement. Il fait ce qu'il a vu faire à Dieu, mais il priait pour que les autres croient en celui qu'il a envoyé. Quand Jésus est allé ressusciter Lazare, il nous a dit aussi qu'à un moment donné, il a levé les yeux vers le ciel et qu'ensuite il a appelé Lazare. Alors je ne veux pas être absolu dans ma déclaration, mais peut-être que Jésus a regardé ce qui se passait là-haut, ce que Dieu faisait, et il a vu que Dieu allait ressusciter Lazare, donc il s'est contenté de dire « Lazare sort » et ça s'est produit. Dieu veut fonctionner comme ça avec nous. Je crois que Dieu veut vraiment nous introduire dans un nouveau mode de fonctionnement. Et moi, ça me... j'en ai envie. J'en ai envie. Est-ce que ça serait pas bon qu'on puisse simplement être conduit par Dieu comme ça, tous les jours, dans tout ce qu'on fait? Dieu veut le faire, mais ça dépend juste de nous. Ça dépend juste de nous. Mais ce témoignage intérieur de l'esprit, ou cette intuition de l'esprit, malheureusement, c'est peut-être pas très à la mode parce que c'est pas très spectaculaire. Mais c'est au moins aussi surnaturel que les prophéties, ou que les visions, ou que les miracles, etc. Surtout que l'intuition de l'esprit nous fait poser des actes qui vont forcément amener des miracles et amener la puissance de Dieu. Parce que je suis en train de faire quelque chose où on est dans le culte, simplement. Et peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui serait malade. Et on est en train de prêcher tranquillement, il y a un prédicateur qui est là, il prêche. Et puis d'un coup, l'esprit peut lui dire quelque chose, d'accord? Et ça va libérer la vie de cette personne. Pourtant, ça ne correspond pas à son programme, ça ne correspond pas à ce qu'il voulait faire, et ce n'est pas très spectaculaire. Il n'est pas en train de dire « Attention, l'Éternel me dit !» Mais simplement dire une parole, ou simplement dire « Il y a une personne là qui a tel problème, priez pour elle, cette personne sera libérée. » Quand nous agissons sur l'intuition de l'esprit, donc sur ce que Dieu est en train de faire, nous sommes sûrs d'avoir des résultats, parce que nous faisons tout simplement ce que Dieu fait. Pas plus, pas moins. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce qui est spectaculaire, mais je préfère des choses authentiques, que des choses qui font beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de choses, mais qui en fait ne produisent rien. C'est bien qu'il y ait des ministères et puis des églises et des organisations qui fassent des grandes croisades, qui fassent des soirées techno ou toutes sortes de choses, pourquoi pas. C'est bien qu'il y en ait qui fassent d'énormes manifestations quelconques. Et je pense que c'est bien si ça peut participer au royaume de Dieu. Mais l'essentiel de l'œuvre de Dieu dans nos vies et à travers nos vies, elle se passe par l'intuition de l'esprit. C'est tous les jours que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est tous les jours que nous sommes ambassadeurs de Dieu. Et c'est chacun de nous, enfant de Dieu, né de nouveau. Job 33 dit que celui qui... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et l'Apocalypse disait que celui qui a des oreilles entende. Donc si, peut-être quelqu'un a l'impression, mais moi j'ai pas ce genre d'intuition. Mais moi j'entends pas ce genre de choses. Dieu parle. Nous avons juste besoin déjà d'être éveillés donc à la réalité de ces choses, au fait que Dieu veut nous communiquer des choses, que Dieu veut nous donner des intuitions, un témoignage intérieur, et de nous placer à son écoute, d'apprendre. C'est des choses dans lesquelles on doit grandir. Il se peut que tu aies à un moment donné une intuition comme ça, mais tu ne vas pas le faire parce que pour X raisons, tu n'as pas encore assez d'assurance en ça, mais Dieu veut t'encourager et te faire apprendre. D'accord ? Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose d'énorme pour commencer. Mais nous avons besoin d'apprendre à fonctionner avec cette communication de Dieu, cette intuition de Dieu, tous les jours. Peut-être même pour X raisons, si tu as l'impression qu'il faut que tu prennes un autre chemin, ce jour-là, ben fais-le. Même si tu te dis, maintenant, il n'y a pas de raison, je vais perdre 5 minutes, peut-être que le soir, tu vas lire le journal et soit il y avait un accident, soit il y avait quelque chose. Ou inversement, Dieu peut te faire passer sur le chemin de quelqu'un que tu n'aurais pas croisé si tu avais pris un autre itinéraire. Ou quand tu discutes avec quelqu'un, même un collègue de travail ou quoi, peut-être que tu vas ressentir, parle-lui de Jésus. Tu vas dire, mais non, lui, je sais qu'il ne veut pas croire, ou qu'il est catholique, qu'il ne veut pas vraiment donner sa vie à Jésus, ou toutes sortes de choses. Non, l'intuition de l'esprit a ceci de positif, qu'elle passe par notre esprit, et pas par notre intelligence. Donc elle n'est pas arrêtée avant que nous ne commencions à raisonner. Donc nous la recevons, après c'est à nous de voir si on veut la raisonner, ou si on veut simplement accomplir ce que Dieu nous demande. Quand Dieu nous a régénérés, c'est pour que notre esprit reprenne la place d'autorité et que ce soit depuis notre esprit que notre corps et notre âme soient dirigés. Oui. C'est ce que Dieu veut. Donc nous recevons dans l'esprit des choses de la part de Dieu. Parce que même pour la guérison, c'est pas une réalité physique, c'est pas une réalité matérielle. Je suis malade, la réalité c'est que normalement je vais chez le médecin, je prends des médicaments, etc. Et quand c'est nécessaire, bien sûr, on va le faire. Mais dans mon esprit, je peux avoir la conviction que je peux être guéri. Quand le médecin dit que telle personne est condamnée, et c'est ce qu'on est en train de vivre avec mon papa. Ça fait maintenant au moins 2 ans que les médecins disent qu'il lui reste quelques semaines à vivre. Mais si dans ton esprit, et c'est ce qui arrive, parfois quand nous prions dans notre esprit, dans la conviction, oui, Dieu peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Et les médecins le disent, On ne sait pas à quoi tient votre mari. Est-ce que c'est peut-être votre foi ou c'est peut-être parce qu'il est bien entouré? Parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est possible. Dieu veut nous conduire comme ça. Et donc c'est comme ça, en étant dépendant de Dieu, qu'on devient indépendant des circonstances. Eh bien c'est comme ça que c'est possible. Parce qu'il communique à notre esprit. Pas par un genre d'imagination. Non, parce que Dieu communique à notre esprit, nous pouvons commencer à devenir indépendants de ce qui serait normal, de ce qui serait logique. Donc Dieu veut se révéler à chacun de nous. Moi, je désire que chacun vraiment puisse expérimenter ça. Ouais. Nous puissions entendre Dieu nous parler, que nous puissions être sensibles à ses intuitions de l'esprit. Et pourquoi pas, même dans le culte, Dieu peut donner à quelqu'un l'intuition. Maintenant, c'est le moment d'intercéder. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, d'accord? Mais Dieu peut nous conduire dans nos cultes, mais dans notre vie quotidienne, à commencer à être sensibles à ses intuitions de l'esprit de Dieu. Et nous allons alors grandir dans ces choses, au point que nous allons tous les jours, vous et moi, chacun ici présent, expérimenter des miracles, parce qu'on est à côté de quelqu'un et l'Esprit de Dieu nous dit, dis-lui quelque chose. Peut-être la personne, tu la connais pas, tu l'as jamais vue, tu es en train d'attendre le train à côté d'elle ou tu fais n'importe quoi d'autre, mais tu vas lui parler de Jésus et étrangement, cette personne avait besoin d'une parole de réconfort. Dans l'église, Dieu peut te demander de faire quelque chose, de lire un passage ou de faire une prière ou de quoi que ce soit, et ça va libérer la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit ce qu'il fallait faire. Et c'est pas toi qui as essayé de trouver comment se débarrasser de cette lourdeur ou de cette oppression qu'on ressent peut-être parfois. Hein. Mais l'Esprit de Dieu veut nous montrer comment faire. Et ça nous concerne tous. Alors, sortons les antennes pour recevoir ce que Dieu veut nous communiquer. Moi, je crois que ces choses vont vraiment nous amener dans une nouvelle dimension aussi, avec Dieu. Une nouvelle façon de fonctionner, avec beaucoup plus d'efficacité. Et ça va vraiment être bien. Et c'est quelque chose de Dieu pour les temps où nous sommes. Ça, c'est notre alliance. Si vous pensez que vous avez besoin donc de dépendre de quelqu'un pour entendre Dieu vous parler, vous êtes en train de vous réinscrire dans l'ancienne alliance. Et ça ne m'intéresse pas. On se trompe d'époque, oui. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je vis dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, j'ai une communion avec Dieu. Dans la nouvelle alliance, l'esprit me communique des choses. Dans la nouvelle alliance, mon esprit a été régénéré pour me rendre sensible aux réalités de Dieu, qui se reflètent sur mon corps, pour qu'il soit en bonne santé, sur mon âme aussi, pour que j'ai pas de problème psychologique ou autre. Pour que je puisse rester constant aussi dans mes émotions, dans mes sentiments, parce qu'elles sont contrôlées par l'esprit qui vit les réalités célestes. Et alors tout ça se reflète et je peux être un témoin efficace du royaume de Dieu autour de moi. Parce qu'un chrétien déprimé ne peut pas apporter grand chose à des gens déprimés. Est-ce que c'est bon ce que je viens de vous partager?
Je peux les comprendre, mais pas les aider.
Amen. Voilà. Alors soyons sensibles à ces choses. Hein. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.